I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute, bande dessinée, Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi, ce soir, Catherine Robin, Joseph Gosse et Antoine Guillot. Pour parler ensemble de moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris chez Monsieur Toussaint Louverture. Les grands espaces de Catherine Meurice chez Dargo et les rigoles de Brecht Evans chez Actes Sud BD. Il y aura bien sûr un coup de cœur ce soir délivré par Catherine Robin pour Heimat de Nora Krug chez Gallimard BD. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour Le procès contre Mandela et les autres, un film de Nicolas Champeau et Gilles Porte sorti hier au cinéma. Nous ouvrons cette dispute avec le roman graphique qui a fait beaucoup parler en cette rentrée littéraire. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Bon, j'aurais préféré ce sont les monstres, mais c'est une petite fille qui parle. Donc elle a le droit à cette faute de français. C'est un livre publié chez Monsieur Toussaint Louverture, œuvre en effet monstre, tracé au stylo à billes sur 416 pages grand format, livre signé Émile Ferris, qu'on a pu entendre il y a quelques semaines dans Mauvais Genre, où participiez Antoine Guillot. Émile Ferris, américaine, née en 1962, qui s'est mise à l'ouvrage après ses 40 ans, a essuyé, ai-je lu, 48 refus d'éditeurs avant que Fantagraphics relève le pari. En France, le texte est donc publié chez Monsieur Toussaint Louverture, traduit par Jean-Charles Califat, et le lettrage a été effectué à la main par Amandine Boucher.
Ma fille m'avait dit, ne va pas à cette fête. Mais j'y suis allée quand même. J'ai été piquée par un moustique et la piqûre est devenue toute noire. J'ai commencé à transpirer, à avoir des frissons, beaucoup de fièvre. Ma fille était très jeune et devait me regarder ramper jusqu'au frigo pour lui donner à manger. Je ne pouvais plus marcher. Je pensais que ça irait mieux. Mais non. Un jour, je me réveille dans un hôpital. Ils me disent que j'ai frôlé la mort et que je suis paralysée. J'avais une encéphalite et une méningite, donc des lésions cérébrales importantes. Je ne pouvais plus bouger la main. Quand je m'en suis aperçue, ça a été un choc terrible. Rien ne tenait dans ma main. J'étais trop faible. Ma fille scotchait un stylo à ma main pour que je puisse dessiner. J'ai commencé comme ça. J'ai été mordue, mais pas comme je l'imaginais. Ça m'a transformée en monstre et m'a fait comprendre ce que c'était qu'être un monstre. Mais ça va, c'est ce qui devait se passer.
Et voilà comment on peut se mettre à passer 40 ans et cette fête d'anniversaire qui a mal tourné avec cette piqûre, à se mettre à faire ce roman graphique. C'est bien sûr Émile Ferris qu'on vient d'entendre. Antoine, ça l'a dit, j'ai donné quelques indications formelles quasiment, mais j'ai pas dit de quoi parler ce livre.
Oui, alors il ne parle pas de ce que vient de raconter Émile Ferris. Peut-être qu'elle fera un jour un autre livre pour le raconter. Et c'est vrai qu'il faut réussir à se débarrasser de tout ce storytelling qui a été abondamment utilisé pour la promotion du livre et qui peut faire un peu peur, c'est-à-dire le livre qui surgit suite à après avoir frôlé la mort.
Moi, j'ai lu après, vous connaissez mon goût.
Oui, oui, mais c'est vrai que ce livre, ça fait longtemps qu'on en parle, déjà parce qu'aux États-Unis, il a eu un succès immense. Il a remporté de nombreux prix. compris. Et puis, il y a cette, tout d'un coup, arrive quelqu'un qui manifestement est très très fort et dont on n'a jamais entendu parler. C'est-à-dire, c'est complètement stupéfiant. Alors apparemment, elle a en fait déjà plusieurs livres derrière elle qu'elle n'a jamais publiés, qu'elle n'a jamais osé soit envoyer à des éditeurs, soit qui ont tous été refusés. Et c'est vrai que c'est un livre qui peut être un peu intimidant. C'est-à-dire que c'est un très gros objet, vous l'avez dit, 416 pages. Ouais. Et ce n'est que le premier volume.
Livre premier.
Que l'ensemble fera 800 pages au total. Normalement, elle devrait sortir un peu plus vite que prévu, parce que là, elle a mis 15 ans à le faire à peu près ce livre. Et puis, il y a, quand on le feuillette, quelque chose de très touffu, de très dense à l'intérieur, ce qui peut faire un peu peur. Et puis, on garde longtemps ce livre sous la main et on se rend compte que ce livre nous regarde, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce personnage en très gros plan, en couverture, qui a un regard dont on ne sait s'il est effrayant ou effrayé. Il est un peu entre les deux. Et puis, on se rend compte que non seulement ce personnage nous regarde, mais que nous nous reflétons nous-mêmes dans la pupille du personnage sous la forme d'un petit être qui s'avère être une petite fille loup-garou. Et une fois qu'on rentre dedans, on devient complètement cette petite fille qui s'imagine être un loup-garou, parce que le livre prend la forme d'un journal écrit par et dessiné par cette fille. On est dans du fac-similé de pages de carnet relié spirale avec des perforations pour qu'on puisse enlever les pages. D'ailleurs, elle va beaucoup jouer souvent sur ces perforations qui trouent même le récit. Mais une fois qu'on rentre dedans, on est complètement embarqué. C'est-à-dire, c'est une épaisseur romanesque qui est rare, et pour le coup vous parlez de roman graphique, mais on peut réellement parler de roman graphique parce qu'il y a cette ambition romanesque avec des couches qui se superposent les unes derrière les autres, avec des principes de secret qui sont révélés ou pas. Alors on verra ce qui se passe. Je pense qu'on aura vraiment l'idée générale de ce livre quand on aura lu les deux tomes, mais des secrets à la fois de famille, des secrets d'histoire avec un petit H ou un grand H, et sa capacité à nous faire rentrer dans la peau de cette adolescente mal dans sa peau, donc il va s'imaginer à la fois être un loup-garou, à la fois être un enquêteur, parce qu'il y a une voisine qui va être assassinée, on va se demander qui c'est, mais surtout...
Suicide ou meurtre ?
Ce qui est très étonnant, c'est que tout ce qu'a raconté Émile Ferris nous laisse à penser qu'il y a une part autobiographique dedans, et c'est une sorte d'autobiographie un peu fantasmée, mais qui en raconte une enfance dans le Chicago des quartiers populaires d'Uptown à la fin des années 60, et qui est réussi à faire ressortir une ambiance, une atmosphère et une éducation par l'art. On y reviendra aussi tout à l'heure, que je trouve tout à fait passionnant. Donc j'ai été embarqué dans ce livre, voilà, du début à la fin, avec des émotions qu'on ressent rarement.
Embarquée, Catherine Robin ?
Comme Antoine, en fait, on a tellement entendu parler de sa biographie avant de découvrir son œuvre que ça met dans une certaine disposition quand on est face au livre. Tout à coup, on se dit, mais avec une vie pareille, avec des voilà, qu'est-ce qui va nous arriver entre les mains. Bon, le côté très impressionnant, je suis d'accord. Dense, épais. Sur le côté facsimilé, je pense que je sais pas si c'est véritablement des facsimilés. Je pense que c'est quelque chose qui a été composé et recomposé a posteriori, et que ça a été une construction assez fragmentaire des pages. C'est une illusion de journal intime. Mm-hmm. Moi, ce papier d'écolier avec ses lignages et l'utilisation du stylo à billes, ça m'a fait penser à un dessin automatique, le dessin téléphonique, le dessin qu'on faisait quand on était à côté du téléphone gris à cadran et que on se laissait la main embarquer comme ça dans un dessin un peu automatique. Et je pense que ce livre, c'est un peu cela, c'est-à-dire il lui a été comme révélé dans toute sa phase de reconstruction, de résurrection, c'est comme si son inconscient s'était révélé à elle à travers le dessin. Et d'ailleurs, on retrouve ça bien au-delà du dessin. Je pense qu'on trouve ça aussi dans la narration, dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'au départ, on part sur l'idée de cette petite fille avec une face de maxi-monstre à la Maurice Sendak. Ensuite, on va partir dans cette chronique un peu sociale à travers le personnage du frère. Elle a un frère tatoué. Voilà, elle est issue d'un couple mixte américano-mexicain. Le père a disparu très tôt. Le frère est très impressionnant et va en effet l'initier à l'art en l'emmenant dans les musées. Donc là, on passe dans une chronique très années 60 façon Robert Crumb un peu. Et puis après, on bascule encore dans l'Allemagne des années 20, puis pendant la guerre, à travers le personnage d'Anka, cette fille assassinée ou suicidée, on ne sait pas. Donc là aussi, on ne sait pas très bien qui mène la danse, en fait.
Et ça vous a posé problème ou ça vous plaît plutôt? Je sens une petite réticence, Catherine Robin.
Disons que j'ai eu du mal à m'y plonger. Je trouve que, en fait, la narration est... En effet, c'est un visage qui nous regarde sur la couverture. Et dans le livre, sont essentiellement des visages qui font la narration. C'est très, très statique. Après, bien évidemment, on peut se dire c'est une femme qui a connu la paralysie, qui a recouvré peu à peu ses facultés de mouvement. Donc, difficile de ne pas y voir quelque chose, un lien entre ces deux choses. Mais j'avoue que c'est très impressionnant quand même. Alors, je l'ai lu avant l'été. Enfin, je l'ai lu, oui, je crois, avant l'été. Et là, j'ai voulu le relire avant la dispute. Et j'avoue que j'ai eu un peu de difficulté à m'y remettre. Mais en même temps, c'est très abouti. C'est-à-dire que c'est très impressionnant. Mais une fois qu'on rentre dedans, on n'est pas déçu. Elle est quand même très, très forte.
Donc, ne vous excusez pas.
Je suis un peu ambivalente.
De votre sentiment mitigé. Joseph Gosne sur Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris.
Eh bien, moi j'ai un rapport aussi assez mitigé avec ce livre. Je l'ai découvert il y a un peu avant sa traduction en français, puisque je l'avais acheté en anglais. Et en fait, je l'avais acheté simplement sur l'objet. Et il y a comme ça, je trouve que c'est un des traits de la bande dessinée, c'est-à-dire que parfois certains livres, par leur graphisme, s'imposent à vous et vous forcent un peu à les acheter. Sans même connaître l'histoire et sans même savoir de quoi il en retourne, juste sur la puissance du trait, des images et en tout cas et sur la singularité. Et c'est certain que là, il y a une vraie singularité d'emblée, comme ça, il y a quelque chose qui vous happe. J'ai eu beaucoup de mal à le lire dans la première fois que je l'ai acheté. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, en fait. Alors je pense pas que ce soit l'anglais en tant que tel, mais j'ai eu un peu de mal à m'y accrocher. Et puis ensuite, je l'ai relu en français. J'ai toujours eu du mal à rentrer, mais je pense qu'une fois qu'on arrive à vraiment prendre le temps de rentrer, de dépasser peut-être un peu ce côté très expressif et très très fort du dessin, la narration au bout de peut-être de 200 pages, se laisse, mais c'est un peu long,
c'est
quand même.
Sur 400.
C'est long sur 400, mais quand même, il y a quelque chose qui commence à poser question, etc. Donc, mon rapport au livre est quand même un peu, un tout petit peu mitigé. Ensuite, je trouve que on est quand même beaucoup dans de l'influence assez forte et assez présente. C'est-à-dire, il y a effectivement du Crumb, mais pour moi, il y a avant tout du Will Eisner dans la façon de raconter, et même dans cette espèce de huis clos, de la famille, de l'immeuble, même du rapport avec la guerre, avec le nazisme. Ça part vraiment de d'Eisner. Donc il y a quelque chose qui à un moment me gêne un peu. C'est peut-être un peu trop sous influence à mon sens. Et puis ensuite il y a effectivement des pages, mais c'est peut-être un peu ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a on a l'impression que ce sont des carnets de croquis. Et effectivement, ça rappelle beaucoup les carnets de croquis de Crumb, où effectivement il y a beaucoup de visages entremêlés, beaucoup de tentatives. Et ça me rappelle aussi beaucoup les carnets de Chris Ware, qui sont effectivement aussi dans ce côté un peu jeté, un peu plus brut qu'on a l'habitude de voir de Chris Ware. Donc ça passe dans beaucoup de choses. C'est assez impressionnant. Mais il y a un moment où ça me laisse quand même moi un peu à distance, et peut-être que le fait que ça a été proclamé autant un chef-d'œuvre et le fait qu'il y ait cette biographie et tout ce storytelling, et Antoine a absolument raison, c'est-à-dire il faut vraiment s'en départir. À un moment, vous dites, tiens, je suis confronté à quelque chose qui doit forcément être bien, et en fait, pas tant
que ça. Ça n'aide pas la lecture. Moi qui pensais être très minoritaire, moi j'avoue, je ne suis pas rentré... Dans ce livre, que la prouesse formelle, elle est absolument évidente, hein, qu'il y a une beauté des planches, enfin, voilà, on peut pas. Ce serait difficile de dénier les qualités graphiques, hein, de cet album, qui est tout à fait virtuose. Et moi, je crois que, très précisément, c'est la voix de la petite fille qui m'a empêché d'entrer dans le texte. Parce qu'il s'agit quand même beaucoup de textes, et on sait bien que les voix d'enfants, ce sont les choses les plus dures en littérature, que ce soit en littérature, juste des mots, ou en roman graphique. Et là, voilà, je pense que ce qui m'a tenu à distance, qui m'a empêché d'adhérer, c'est que j'y crois pas, à cette voix. Il y a quelque chose qui fait écran, donc je regarde. regarde, je tourne les pages, je vois de très belles planches, c'est une narration qui n'est pas forcément la plus palpitante du monde, mais vraiment, pour moi, le blocage, il se situe là, et du coup, malgré tout, ça fait quand même une lecture fastidieuse, parce qu'elle est quand même très longue, cette lecture, et que la beauté des planches est une chose, moi, j'ai envie d'être embarqué dans l'histoire, et je l'ai pas été. Alors, bon, après votre première intervention, Antoine, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de bémols et de pondérations, mais dépasser le storytelling, vous qui l'avez fait partie de l'équipe de Mauvais Genre qui l'a interviewé, reçu Émile Ferry sur cette antenne, qu'est-ce que vous pouvez dire d'elle par rapport aux réserves que nous on vient d'évoquer, ce que vous avez pu percevoir?
Ce que j'ai pu percevoir, et c'est pour ça que peut-être aussi en raison de ma propre approche, y compris venue de l'adolescence, c'est des préoccupations, une vision mauvais genre du monde justement, puisque vous dites. D'abord, c'est pas une petite fille, c'est une préadolescente. Et c'est-à-dire c'est un moment où le corps se transforme, enfin toutes les métaphores. Là non plus, vous parliez des influences côté bande dessinée, elle n'invente rien non plus sur le côté le sentiment.
Quand vous aurez une adolescence, voilà. Vous trouvez que c'est encore une petite fille.
Mais oui, mais ça vous
j'ai parlez un peu d'avance sur vous.
vous parlez comme un père, mais le livre ne vous incite pas à vous comporter comme un père, mais à retrouver l'enfant que vous avez que vous avez été. Et moi il me semble que c'est alors là encore on parlait des influences, tout ce qui est le rapport aux monstres, les vrais monstres, les faux monstres, les vrais monstres en fait sont ceux qui n'ont pas l'air d'en être, etc. On est depuis Freaks, de Todd Browning, on connaît ça très bien. Sauf que je trouve qu'elle l'approche très bien, parce qu'on l'a pas dit, mais cette jeune fille, donc petite fille, adolescente, tout ce que vous voulez, a une passion pour les comics d'horreur régulièrement. Et alors ça donne ces pages aussi, effectivement très 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 statiques, mais qui interviennent un peu comme un cœur antique dedans, qui vont commenter l'action qui va venir, mais qui est une manière de dire qu'on peut lire le monde, y compris dans ce qu'il peut avoir de plus déroutant, de plus angoissant, de plus terrorisant, par cette sous-culture là. Ce que je trouve très beau dedans, et ce qui a été confirmé effectivement quand on a discuté avec Émile Ferry, c'est que c'est par là qu'elle a accédé à la grande culture. Et toutes les séquences où, emmenée par son frère, elle va visiter le musée de Chicago, elle va rentrer dans les œuvres, littéralement, dans le dessin, par une lecture mauvais genre de ça, c'est-à-dire qu'elle va être passionnée par des dessins, des peintures où dans un coin se devine une sorcière, où il y a des tortures, par toutes les représentations catholiques. Alors là, c'est la joie de tous les corps suppliciés, ou du Saint-Christophe qui a une tête de chien, etc. Donc il lui parle par rapport à son sentiment d'être un monstre. Et quand tout d'un coup, son frère va l'amener à se regarder pour ce qu'elle est, et qu'il y a la seule page où elle est dessinée comme la jeune préadolescente qu'elle est à ce moment-là, découvrant sa sexualité et assumant aussi sa différence, tout d'un coup, moi, provoque une émotion vraiment, vraiment très forte. Ce qui fait qu'effectivement, moi, cette voix ne m'a pas gêné, dans la mesure où, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur ce regard, ce reflet dans la pupille, je me suis immédiatement identifié à ce personnage qu'a été certainement cette femme, Émile Ferris, qui a eu sans doute du mal à assumer ça aussi jusqu'à l'âge qu'elle a eu. Et cette expérience proche de la mort et de transformation en monstre a fait ressurgir quelque chose qu'elle a en fait toujours ressenti. Et il y a certainement derrière ce livre et les secrets de famille ou d'histoire qui sont cachés dedans, des secrets propres qu'elle-même n'est pas encore en état de révéler et qu'elle révèle d'une certaine manière, de manière complètement métaphorisée par la figure du monstre.
Joseph Gosse,
je crois que si on regarde un peu une trajectoire assez sommaire dans l'histoire de la bande dessinée et de la représentation, si on passe des années 60, dans les années 60, des X-Men qui disent nous sommes des adolescents mais nous sommes des monstres et nous savons pas comment nous intégrer, à dans les années 2000, à la fin des années 90 et des années 2000, au Black Hole de Charles Burns, où il montre des monstres en formation et qui essaient de se créer leur propre société, alors que là j'ai l'impression qu'on est dans la bande dessinée américaine dans une étape un peu différente, qui dit je suis un monstre. Et c'est comme ça que je m'intègre à la société. Et on le voit un peu aussi dans d'autres bandes dessinées, par exemple dans une bande dessinée qui sort en ce moment, qui s'appelle Mister Miracle, qui reprend cette idée-là, cette idée de je suis un monstre et alors je peux vivre dans la société. Donc j'ai l'impression que ça passe, on est en train de passer à quelque chose d'autre, et ce livre, peut-être par son volume et par cette espèce de performance graphique, va peut-être faire passer vers ça.
Catherine Robin, pour terminer peut-être.
Non, mais pour l'avoir interviewée aussi pour le journal, elle s'identifie beaucoup à cette petite fille. On se demandait si elle était une enfant ou une ado. Voilà, c'est une femme de 56 ans en fait, et qui, je pense, nous réserve, parce qu'elle a écrit d'un seul tenant les 800 pages. En fait, elle voulait sortir un livre de 800 pages au départ.
On comprend qu'elle a eu quelques refus.
Voilà.
Pour un premier livre.
Voilà, donc elle est en train de retravailler sur son deuxième livre. Et peut-être que l'on apprendra. En effet, moi, elle était beaucoup dans l'interview, elle était beaucoup sur ce storytelling. Elle parlait encore une fois davantage de combien il fallait garder espoir, parce que on pouvait connaître le succès à 56 ans. Voilà. Voilà, je le trouve vraiment à la fois très intéressant, mais trop intimidant, quoi.
Dernier mot, allez, Antoine Guillaume.
Non, à préciser quand même, je ne sais pas si on l'a dit, que le livre est édité par un éditeur qui n'a pas l'habitude de faire de la bande dessinée, qui en sort très rarement,
qui a l'habitude de faire des bons livres,
très bon livre. Et qui a acheté les droits très chers. Il y a eu une surenchère.
Donc on lui souhaite d'en vendre plein.
Et bien c'est fait.
Je crois que ça marche bien.
C'est fait parce que ça marcherait très bien, et je crois qu'ils en sont à la deuxième réimpression ou troisième.
Enfin, c'est en termes de volume,
c'est un énorme succès de librairie.
Je ne sais pas combien de. Ça donne quoi un grand succès?
C'est un des grands succès littéraires de la rentrée.
Eh ben formidable. Avec les réserves qu'on a, mais pour Monsieur Toussaint Louverture aussi, qu'on aime beaucoup et dont on aime beaucoup les livres. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres d'Émile Ferris, livre premier. On fera peut-être le livre deuxième, hein, s'il tarde pas trop. À suivre dans la dispute, Les Grands Espaces de Catherine Meurice, Les Rigoles de Brecht Evans et Eimat de Nora Krug.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Je suis en train de prendre des cours d'allemand pendant la diffusion de ce jingle, Heimat. On avait fait des émissions avec le grand réalisateur de Heimat, et c'est Nora Krug. Hein,
c'est Nora Krug.
Krug. Bon, Nora, c'est sûr, c'est Nora. N-O-R-A, c'est Nora. Mais c'est pas ça dont on parle tout de suite. Tout de suite, on va parler de Catherine Meurice. J'arrive assez bien à le dire. Je suis fluent en français. Une auteure dont on a déjà parlé ici en 2012, dans la dispute, au moment de la sortie du Pont des Arts. Formidable d'érudition joyeuse. Depuis, Catherine Meurice a échappé, comme on le sait, aux attentats contre Charlie Hebdo, en arrivant en retard. C'est pas mal parfois d'arriver en retard. Elle a publié ensuite La Légèreté. On retrouve aujourd'hui le Musée du Louvre avec ce nouvel album. Beau récit autobiographique d'une enfance à la campagne où la petite fille, on va le voir, découvre sa vocation de dessinatrice.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Twenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont Monsieur le maire et le sous-préfet. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées. Artémise, ô douceur, extase de l'amour. Je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle. Et pareil au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
Les grands espaces, hommage à Charles Trenet. Catherine Robin, tiens, pour commencer.
Les grands espaces, vous avez évoqué la légèreté. Les grands espaces, c'est un peu le frère inversé ou le positif du négatif que constituait la légèreté. Je rappelle juste la couverture de la légèreté, c'était un petit personnage qui marchait sur une dune grisée sous le poids du deuil, puisque cet album, elle l'avait composé, elle l'avait dessiné quelques mois après l'attentat contre Charlie Hebdo. La couverture des grands espaces est comme une résurrection, puisque c'est ce petit personnage qui n'a plus sa petite capuche et qui est perdu au milieu de la végétation. Ça fait un peu penser à Sampé d'ailleurs, cette couverture. De
beaux et grands arbres, voilà. Un beau et grand ciel bleu.
Et donc elle va nous parler là de son enfance, Catherine Meurice. En deux mots, ses parents, quand Catherine Meurice avait 7 ans, ses parents qui étaient des citadins ont décidé de s'installer dans le Marais Poitevin, dans une vieille grange, et de retaper cette vieille grange et d'élever leurs deux filles comme des pionniers un peu de néo-ruraux, voilà, pour les remettre au contact de la nature dans une époque très pompidolienne, giscardienne, puisqu'elle est née dans les années 70.
Et royale que, même.
Voilà. et c'est vrai. Et que l'époque était à l'agriculture intensive, etc. En fait, cet album, elle l'avait commencé avant le 7 janvier 2015, elle avait envie d'aller sur le terrain de son enfance. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'album aurait été le même avec ou sans attentats? La réponse est probablement que non, l'album n'aurait pas été le même, puisque je pense que là, elle a vraiment été dans quelque chose d'assez poétique, alors que peut-être à l'origine, elle voulait faire quelque chose de possiblement plus politique, justement parler de ce que je disais à l'instant, du contexte politique dans lequel elle a grandi, avec des parents assez militants, voilà, qui sont aussi férus de culture que d'agriculture. Et donc, on va suivre l'enfance de cette Catherine Meurice. Et ça va être très, très beau, en fait. Je veux dire, j'adore le dessin de Catherine Meurice. Moi, je trouve que c'est la meilleure dessinatrice française actuelle. J'adore son dessin. Je trouve que c'est un dessin extrêmement réconfortant. Pas réconfortant comme un Astérix qu'on lit sous la couette à côté de... Mais parce que je trouve ça extrêmement réconfortant aussi, les Astérix et les Tintins, qu'on lit au coin du feu.
On saura tout.
Dans un grand débat.
Voilà. Et je trouve que le dessin de Catherine Meurice est réconfortant. Je n'arrive pas très bien à déterminer pourquoi. Je pense que c'est parce qu'elle a vraiment il y a une harmonie dans son dessin. C'est un dessin très rond. Et surtout, elle a vraiment, vraiment un génie des postures qui est à peu près le même que celui de Claire Bretéché. Elles sont très ressemblantes. C'est un peu sa fille spirituelle. Mais elle a vraiment un génie des postures et des mouvements. Vraiment, et même sa typo, la façon dont elle écrit est je trouve assez harmonieuse. Donc vraiment, j'aime énormément Catherine Meurice.
Et vous poursuivrez dans un instant, après avoir écouté vos camarades, et notamment Joseph Gosne, qui nous parle des grands espaces de Catherine Meurice.
Alors, je crois que c'est réconfortant parce qu'il y a quelque chose dans son dessin qui est entre deux mondes, c'est-à-dire il y a quelque chose d'un peu de cette culture, effectivement, Astérix, un peu grenée, mais quelque chose d'un peu plus détaillé, d'un peu plus réaliste, évidemment. Donc on est entre deux, et quand on est adulte comme nous, on aime bien retrouver ça tout en ayant quelque chose d'un peu plus proche de nous. C'est un livre que j'ai plutôt bien aimé et qui m'a fait me poser beaucoup de questions, notamment sur la transmission. La transmission déjà du livre, parce que je vais parler comme un père, pour vous reprendre un autre comme vous avez fait tout à l'heure, je vais me permettre. C'est un livre que j'ai eu envie de passer à mes filles. J'ai pas du tout eu envie de leur passer le livre d'Émile Ferris, évidemment, mais celui-ci j'ai envie de leur passer.
Ils sont un peu jeunes.
Parce que je trouve que c'est un livre qui travaille beaucoup sur la transmission, notamment sur la transmission de la culture et sur la transmission de la façon dont on peut raconter une histoire, dont on peut se raconter sa propre histoire. Et en ce sens-là, c'est assez touchant, assez émouvant. J'étais un peu gêné par le trop plein de citations. Je trouve que c'est un livre qui cite beaucoup, mais du coup qui pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait de sa culture, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a en tête, est-ce qu'on cite littéralement, est-ce qu'on ne cite pas. Il y a du Proust, il y a des choses comme ça, et aussi comment est-ce que la culture, ce qu'on apprend, ce qu'on lit, comment est-ce qu'on vit avec et qu'est-ce qu'on en fait dans la vie. Et là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est la façon de restituer ça dans ce contexte de campagne où finalement il n'y a pas grand-chose, et où la culture devient un ferment pour l'imaginaire et se créer un monde. Et de ce point de vue-là, ça m'a vraiment plu et intéressé. Et du coup, alors j'étais pas spécialement fan de son dessin ou du réconfort dans la bande dessinée, mais là, effectivement, il y a quelque chose d'assez touchant et prenant.
Voilà. Antoine Guillot, pour finir ce tour de table, enfin, je le finirai peut-être.
Alors, c'est vrai que les citations, c'est quelque chose qui lui est un peu souvent reproché à Catherine Maurice. J'entends, vous n'êtes pas le premier de qui j'entends ça, mais je trouve que, justement, dans le livre, ça marcherait bien parce que c'est une famille qui cite déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'on fait de la lecture à voix haute. La culture est quelque chose d'important et qu'on cultive comme il cultive. Il y a une image dedans. Les parents sont des sortes de botanistes littéraires, c'est-à-dire qu'ils vont collecter un peu partout dans leur voyage des boutures de plantes qui sont les descendantes directes en tout cas de celles qu'ont pu avoir des grands écrivains. Donc on a la recherche des œillets de Pierre Loti,
ça vous a plu Pierre Loti,
des figues mais aussi les figues de Rabelais, le rosier de Montaigne, le rosier de Proust. Et la façon dont Catherine Maurice utilise ces citations, c'est un peu pour moi la même chose, c'est-à-dire qu'elle les cultive, elle les fait pousser et elle les intègre très bien à son récit. Et comme elle l'a fait, vous aviez cité le Pont des Arts tout à l'heure, on comprend d'où vient effectivement ce besoin de marier littérature et dessin, parce que ça vient de l'enfance et ça a toujours été là. Et c'est vrai que le livre continue ce qu'a été la légèreté, mais sur un travail, il faut rappeler que dans la légèreté, elle racontait comment elle avait perdu complètement la mémoire suite à l'attentat et que tout ce qui importait pour elle, et dont Proust entre autres, alors, perdre la mémoire avec Proust c'est quand même quelque chose, avait été un manque terrible pour elle. Et faisant ce livre, très manifestement, elle continue ce travail, c'est-à-dire ne pas perdre l'enfance, faire ressurgir ce que ça a été. Dès le début, elle va citer les correspondances de Baudelaire, sous forme un peu parodique comme ça, mais derrière ça, je pense que c'est vraiment le projet, c'est-à-dire qu'il y a, en dessinant, l'envie de faire revenir les odeurs, de refaire revenir les sons, les émotions qui ont été celles de l'époque, et de les faire partager éventuellement à un lecteur, ce qu'elle arrive fort bien à faire. Et sur son dessin, il y a quand même quelque chose qui a évolué par rapport à ce qu'on connaissait d'elle avant, qui était un dessin à la plume extrêmement nerveux, extrêmement... parce que vous parliez de Claire Bretéchet tout à l'heure, mais elle vient aussi de Rézère, c'est un peu l'enfant illégitime de Rézère et de Claire Bretéchet. Et là, utilisant le crayon, je crois que c'est la première fois qu'elle l'utilise, et tout d'un coup, il y a quelque chose de plus rugueux, je dirais. Il y a une matière comme ça qui se prête très bien, parce qu'elle va dessiner de la pierre, elle va dessiner de la terre, et ça donne un velouté presque à son dessin qu'on lui connaissait pas beaucoup. Et puis enfin, pour terminer, le moment où elle se pose, vous parliez tout à l'heure pour Émile Ferris de ces dessins qu'on fait au téléphone et de ces hachures obsessionnelles qui font entrer. Là, elle va faire de la planche botanique. C'est-à-dire, elle dessine beaucoup de fleurs, notamment, et on sent que là, tout d'un coup, elle s'arrête dans son récit qui est mené de manière très fluide et qu'elle se pose et qu'il y a certainement là un travail complètement thérapeutique, je pense, pour le coup, de dessiner des fleurs. Ça doit faire beaucoup de bien. Je ne sais pas, je ne suis pas malheureusement dessinateur, mais elle arrive à communiquer ça aussi, le lecteur. Vous parliez tout à l'heure du génie des postures. Il y a dans cette façon de dessiner les enfants quelque chose qui vient aussi de Mafalda, de Schultz, avec les Peanuts. Ces moments aussi, on met des mots d'adultes dans des corps d'enfants, ce qu'elle évite de trop faire, mais qui fait aussi partie de ce bonheur qu'on a, parce qu'elle stylise tous les moments où elle est perchée sur un tracteur ou sur une meule de foin avec les fesses plus haut que la tête, le dos arqué comme ça. C'est très, très beau comme dessin.
Alors, c'est vrai que vous l'avez un peu vieilli hein, tout à l'heure en parlant de Giscard et de Pompidou. Parce qu'elle est née en 80.
Oui, c'est
Catherine
vrai.
C'est 87, pardon. C'est la fin du premier septennat de François Mitterrand.
C'est la conséquence de cette politique initiée dans les années 70.
Le Mitterrandisme est-il une continuation du pompidolisme?
Vous avez 4 pages. Non, mais c'est pour ça que je parlais de Royal, parce que Ségolène Royal est là en tant que présidente de la région Poitou-Charentes à ce moment-là.
Et René Monory,
l'inauguration du Futuroscope. On s'en souvient de René Monory, enfin. Il était président du Sénat à un moment donné. Même, me semble-t-il, le garagiste de Loudun. Il y a une partie qui est un regard sociopolitique, socio-économique sur le monde paysan, sa fin, le démembrement, la monoculture, qui est une partie non négligeable, hein, qui n'est pas du tout traitée par-dessus la jambe. Il y a un propos assez militant. Alors là, c'est une autre forme de transmission, celle de ses parents qui sont quand même pardon, mais à mourir de rire, dans une forme de caricature absolument adorable. Mais voilà, ils sont des purs et durs, avec tout ce que ça peut comporter. Et puis il y a quand même, ce qui était évidemment déjà présent dans le Pont des Arts, comme vous le disiez, Antoine Guillot, il y a ce rapport à la peinture et à la grande peinture et au musée du Louvre. Et moi, je suis très impressionné quand même toujours par ces planches qui intègrent des quasi-reproductions de ces grandes toiles, où on voit que quand même la technique est là aussi pour Catherine Meury, c'est qu'il peut y avoir ces petits personnages caricaturaux, mais il y a aussi, et c'est parfois vrai, c'est le cas de la couverture, il y a un souci du détail, elle peut, entre guillemets, très bien dessiner, comme faire des gros nez. Moi, j'aime beaucoup cette sorte de technique mixte qu'elle a.
Mais c'est proche d'ailleurs de ce qu'on disait tout à l'heure pour Émile Ferry, c'est-à-dire ce rapport à la peinture, où par exemple, à cause de cette enfance à la campagne, elle va se projeter dans ces toiles qui ennuient à mourir tous les enfants qui visitent le musée du Louvre, c'est-à-dire les peintures de paysages, les bosquets de Versailles, etc. Pour elle, c'est formidable.
Et formidable aussi les spectacles du Puy du Fou. Hein. C'est pour un peu comparer les choses.
Oui,
mais
c'est une enfant.
Ça qui est drôle.
Et comment, effectivement, c'est très beau, et ce qui me plaisait aussi pour Émile Ferry, c'est comment un vécu personnel permet d'appréhender l'art. Et ça, on ne le dit jamais assez.
Catherine Robin.
Il faut préciser aussi que ce n'est pas elle, pour la première fois, qui a fait les couleurs. Elle a demandé à une de ses amies.
Ah ben, citez-la.
Isabelle Merlet.
Grande
coloriste de bande dessinée, celle qui fait les couleurs de Blotch, notamment.
Voilà. Et donc, elle lui a demandé à elle de faire ses couleurs parce qu'elle ne voulait pas. Elle a séjourné, on l'a vu dans La Légèreté, à la Villa Médicis. Elle a été après aussi à la Villa Kujuyama à Kyoto. Et elle dit qu'elle a besoin de travailler désormais avec d'autres et casser la solitude du travail de dessinateur de bande dessinée. Moi, j'ai juste une réserve parce que je suis très enthousiaste
sévère
à l'égard
mais juste.
Voilà. Ouais. Quant aux parents dont vous parliez, Arnaud, à l'instant, moi je trouve que c'est quand même une famille idéale, idyllique qu'elle décrit.
On n'a pas dit que c'était un récit pur 100% autobiographique.
Voilà, c'est ça.
Juste,
ce qu'elle décrit, je veux dire, dans la famille Meury, on joue à Pierre Loti, quoi.
Ouais.
Donc c'est quand même c'est
fabuleux. Allez savoir, c'est peut-être vrai.
Ben oui, c'est peut-être vrai avec le musée des crottes. Et je trouve
pas
que
des crottes.
Oui, oui. Mais je trouve qu'il y a quand même, ça manque peut-être un tout petit peu de contexte. On ne sait pas du tout ce qu'ils faisaient dans la vie, ces deux parents. Moi, ça m'a manqué. Résultat, ce côté idyllique où tout le mauvais c'est Monory, c'est le Puy du Fou, etc. Tout est à l'extérieur et il y a une espèce d'idéalisation de la famille.
Mais parce qu'ils sont vus par une enfance.
Ils sont vus par une enfance.
C'est pas encore une adolescente qui va envoyer paître ses parents.
Voilà.
C'est même ça qui est assez beau. C'est-à-dire que les premières planches donnent tout de suite le ton. C'est-à-dire qu'on la voit, elle, maintenant, qui dessine une porte imaginaire de chez elle et qui retourne dans cette campagne et dans cette enfance. Et que du coup, tout est autour de cette question de qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qui est encore en moi? Qu'est-ce qui est extérieur à moi? Qu'est-ce que je restitue ou pas? Et c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ce musée des crottes, il est peut-être tout à fait imaginaire.
Mais c'est une image du livre, en fait, parce qu'elle rend sublime des petits moments qui est anodin, au bout du compte.
Et après,
a eu des parents exceptionnels aussi.
Ça existe. Et on peut concevoir qu'on fasse un musée des crottes quand on s'ennuie un petit peu dans une enfance à la campagne. Et pas seulement de crottes, hein. Attention, ça commence par des fossiles. Enfin, bon, il y a toute une évolution de ce musée dont les prix d'entrée ne cessent de grimper, évidemment. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce livre, beaucoup plus fin que les autres à notre sommaire. Ce soir, les grands espaces, ça s'appelle.
Mais c'est pas plus mal qu'il soit fin, non?
Ah, je suis d'accord. Non. Ah, moi, ça me va très bien. Oui. Moi, c'est la bonne durée, le bon format. J'étais dedans du début à la fin.
La surenchère, alors.
Oui.
Au nombre de pages.
Au cabicou, non. c'est un livre de Catherine Meury qui paraît chez Dargo. C'est le moment de mon cours d'allemand avec le coup de cœur de Catherine Robin pour Heimat de Nora Krug chez Gallimard BD. Pourquoi ce coup de cœur?
Alors, Nora Krug, je ne la connaissais pas, c'est une illustratrice d'origine allemande qui vit aux États-Unis à New York depuis une petite vingtaine d'années et qui, dont le premier livre, elle l'a traduit ce n'est pas son premier livre, mais en tout cas, c'est le premier qui est traduit en France. En quelques mots, cette jeune femme à l'approche de la trentaine ou de la quarantaine, on ne le sait pas vraiment dans le livre, mais on le devine, déracinée d'Allemagne, commence à éprouver de la la nostalgie pour son pays et
Heimat.
Absolument. Et sauf que voilà.
Mot intraduisible en français.
Voilà. Donc vous en
parce
connaissez.
Parce que c'est pas Vaterland. Hein. Vaterland, voilà. C'est la patrie.
Heimat.
Mais Heimat.
Heimat, bah c'est oui, c'est compliqué.
C'est
moi, je dirais le territoire intériorisé de l'enfance. C'est quelque chose à la fois symbolique.
Vous déposez cette définition.
Je vais appeler Robert. Et en gros, elle va commencer. Donc, elle repense à son pays. Elle va éprouver de la nostalgie. Elle va se demander comment éprouver cette Heimat à l'égard d'un pays, à l'histoire si complexe, si funeste. Et elle va partir à la recherche de son histoire familiale. C'est une jeune femme qui est née, je crois, en 77. Et qui fait donc partie d'une génération qui a beaucoup parlé de la Shoah, beaucoup parlé de la Seconde Guerre mondiale, à l'école, dans la société en général, d'un point de vue collectif. L'Allemagne a assumé de façon collective cette part de son histoire, mais très peu dans l'intimité des familles, un peu comme en France d'ailleurs. Ce qui fait qu'elle va être confrontée au silence des uns et des autres, de ces deux familles. Elle a grandi à Karlsruhe, à côté de la frontière française, et elle va raconter combien elle a été biberonnée à la honte et la culpabilité d'être allemand. Et donc elle raconte combien à l'école elle a été visiter des camps, elle devait décrypter, déconstruire des discours d'Adolf Hitler, etc. Elle n'avait pas employé le mot race en dehors des espèces animales, enfin. Et tout à coup elle va rentrer chez elle et essayer d'aller creuser sous la terre et sous tous les secrets enfouis de sa famille, pardon. Et c'est passionnant, et surtout c'est très très bien fait, parce que c'est à la fois du dessin, où elle raconte des épisodes du passé de sa famille maternelle et paternelle, mais c'est surtout agrémenté d'énormément de documents, photos, facsimilés de documents d'époque, hein, des lettres, et c'est d'une richesse incroyable. Elle se mue vraiment en enquêtrice, et c'est vraiment un carnet de croquis où elle va se confronter avec nous à ce passé. Il y a notamment une scène où elle découvre que son grand-père, de qui on avait dit qu'il n'avait jamais été nazi, elle découvre un questionnaire des forces américaines dans lequel il répond le mot « ya ». Avez-vous appartenu au NSDAP ? Oui, de 1933. Bon, bref. Et elle découvre le passé nazi de sa famille. Et j'ai l'impression de vous dire les choses de façon extrêmement décousue. Mais parce que ça parle
un gros
vraiment...
volume, lui aussi. Hein.
Oui, voilà, donc mais parce que ça parle vraiment de nostalgie. Hein. On parlait de nostalgie avec Catherine Meurice, mais c'est aussi cela. Elle ponctue son livre de différentes rubriques qui reviennent un petit peu, extrait du journal d'une émigrée nostalgique, où elle parle d'objets allemands, typiquement allemands, qui lui manquent, comme le classeur Lights. Pardon, qu'on connaît, une bouillotte, le pain noir, enfin voilà. Et elle parle de pourquoi ça lui manque tant. Et puis il y a aussi toute une recherche sur les marchés aux puces allemands, où elle va trouver des objets complètement fous sur... voilà, ce que j'aimerais juste ajouter, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai, c'est que je m'arrête juste là.
Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps ensuite.
Juste citer, parce que de la même période, le livre de Philippe Collin qui sort et qui explore à peu près la même chose chez Futuropolis, qui s'appelle Le Voyage de Marcel Grob, et qu'on peut mettre vraiment en miroir de cet Heimat, parce qu'il va investiguer, rechercher l'histoire de son grand-oncle, arrière-grand-oncle ou grand-oncle, arrière-grand-oncle, qui était un Alsacien malgré nous et qui a été dans les Waffen-SS et qui a eu une... c'est intéressant, cette génération de quadragénaires qui va explorer la mémoire difficile de
sa famille. Hein. Ouais. Allez, Matt, Nora Krog, chez Gallimard BD.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
La dernière séquence, cette dispute bande dessinée avec un autre auteur dont on a déjà parlé ici, le Belge Brecht Evans. On en avait parlé en 2012, c'était Les Amateurs. C'était assez drôle, je dois dire. Cette fois, Les Rigoles. Est-ce que ce sera drôle? Je ne sais pas. Toujours réalisé à l'aquarelle en tout cas. Enfin, si je le sais, je l'ai lu. Evans nous entraîne à la suite de son héros pour une dernière nuit dans la grande ville qu'il doit quitter le lendemain matin pour aller où? À Berlin. Tiens, cet enchaînement est magnifique. La nuit va être longue.
Papagena, bist du mir nun ganz gegeben?
Nun bin ich dir ganz ergeben.
Nun so sei mein liebes Weibchen.
Nun so sei mein Herzenstümpchen.
Mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein?
Welche Freude wird das sein?
Wenn die Götter uns bedenken.
Wenn die Götter uns bedenken.
Unser lieber Kinder schenken. Unser lieber Kinder schenken. So liebe kleine Kinder.
C'est la dispute musique ce soir et c'est la dispute BD en même temps puisque Brecht Evans nous a tendu une si grande perche pour faire entendre cet air de Papageno et Papagena dans la flûte enchantée qu'on ne pouvait pas faire autrement que de le diffuser. Joseph Gauss ne va chanter à présent.
En quelle langue ?
Bon, je vais rechercher ce que vous voulez.
Chanter, je ne sais pas.
Les rigoles, là.
Les rigoles. Alors, les rigoles, c'est...
Encore un petit livre. Hein.
Les rigoles, c'est un petit livre. Après, je t'avais
ça. Combien de pages ?
des petits livres. Moi, j'ai toujours l'impression, avec les livres de cet auteur, qu'il faut s'y confronter. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de faut y aller, et ça s'impose un peu à vous. Celui-ci commence par l'histoire de quelqu'un qui est en train de déménager, qui déménage le lendemain, qui part pour Berlin rejoindre sa femme ou sa copine, sa fiancée, voilà, et qui a une nuit encore à passer dans une ville, qui est peut-être Paris ou peut-être une autre ville, ou un mix de plusieurs villes. Et il y a une première page, dans les premières pages, il y a cette page où il appelle tous ses amis et tout le monde
a autre chose à faire
que de passer la soirée avec lui. C'est peut-être dommage, parce que
avec toutes les raisons possibles, c'est génial.
Mais c'est peut-être pour ça. Et ensuite, c'est une dérive dans la nuit avec beaucoup de personnages. Au bout d'un moment, j'avoue que je lâche un peu la narration pour me concentrer sur les pages,
vaut
les
mieux
couleurs,
pour votre santé mentale, quoi.
Tout à fait. Je retrouve le fil à un moment où tout le monde est en train de prendre de la drogue. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire c'est vraiment un livre sur la saturation totale des sens, des couleurs, des moments. Ça passe par des pages avec des toutes petites cases. Enfin, il n'y a pas de cases, mais des tout petits dessins comme ça, un plus ou moins qui avec des séquences hyper découpées pour d'un coup aboutir à des pleines pages quasiment muettes qui décrivent des scènes avec énormément de détails. Ça vous perd, moi ça m'a beaucoup perdu, même si finalement j'aime vraiment bien ça, j'aime bien cette charge que ça vous impose, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je suis un peu perdu dans ce que je lis.
Antoine Guillot, vous êtes retrouvé, vous ? Il y a moins de gommettes autocollantes que chez Émile Ferris, quand même.
Il y en a moins.
Je le connais par cœur, mon Antoine Guillot.
On les compte pas. J'ai aimé me perdre, effectivement, moi, beaucoup dedans, parce que ça joue de ça. C'est-à-dire que parfois, si vous passez une nuit avec ou sans stupéfiant, il y a des moments où vous êtes complètement perdu. Et les personnages se perdent. Parce que c'est pas seulement un personnage, il y a trois personnages principaux, en fait, qui vont se croiser dans cette fête permanente que dure cette nuit et qui n'est pas si permanente que ça parce que le livre pulse aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des moments de fête totale des sens et puis des moments où on s'arrête, où on est un peu déprimé, où on va discuter et puis paf, ça repart, ça dérive complètement. Et je dois vous avouer que ça a été un bonheur pour moi de lire ce livre, simplement de tourner une page et de me dire tiens, qu'est-ce qu'il a inventé là. Il y a une joie totale qui m'envahit moi quand je vois ça, non seulement parce que les couleurs sont extrêmement belles, mais il y a une invention permanente de la manière de mener le récit, c'est-à-dire que à bien y regarder là où on croirait être perdu, en fait il se passe quelque chose à l'intérieur de la page, il y a un personnage à suivre qui va on va pas lire toujours de droite à gauche et de haut en bas, mais on n'est jamais complètement perdu, ou alors quand on l'est c'est tout à fait volontaire, c'est-à-dire que c'est pas il est dans une maîtrise, je trouve, absolue de ça. Ça a l'air très improvisé, mais je pense que c'est extrêmement construit et fabriqué, et en même temps il se laisse porter par moment par ces personnages, avec ce système qu'il a inventé qui marche très bien chez lui, parce qu'on est dans des couleurs complètement irréalistes, et pas seulement parce que parfois les personnages prennent des choses bizarres. Mais parce que tous les personnages sont caractérisés par une couleur principale, qui est, y compris celle de son dialogue. C'est-à-dire que tous les, même dans les pages extrêmement foisonnantes, on sait toujours qui parle, on sait toujours ce qui se passe. Et moi, j'étais vraiment stupéfait par ça. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où il va se faire plaisir avec des grandes doubles pages qui nous installent, voilà, dans une ambiance. C'est aussi quelqu'un qui vit beaucoup plus de la vente de ses originaux que de celle de ses bandes dessinées, parce qu'il est très, effectivement, ses pages sont très belles, donc on serait ravis d'avoir ça chez soi. D'ailleurs, il y a une exposition à la Galerie Martel qui va bientôt commencer. Donc,
25 octobre.
Si vous avez les moyens, vous serez ravis d'acquérir ça. Et on parlait d'influence tout à l'heure. Alors chez lui, on a l'impression que c'est toute l'histoire de l'art qui est redigée, géré, recraché par Brecht Evans. Ça va de Bruegel à Escher, de Gross à qui vous voulez, mais sans jamais que ça soit marqué comme regardez l'influence. On peut penser à Pérec aussi, sur sa manière, voilà, de découper une ville, de vouloir montrer tout ce qui se passe. Je parlais d'un livre qui nous regardait tout à l'heure. Là, c'est un livre ville, quoi. C'est un livre, le livre monde, c'est devenu un cliché, mais là, on est réellement dedans. C'est-à-dire, c'est un livre qui se parcourt comme on passerait une nuit de fête dans cette ville qui syncrétise, effectivement, parce que ça pourrait être Berlin aussi, ça pourrait être
Madrid,
plein de choses, même si c'est en fait très circonscrit.
New York, un quartier, 1980.
Ouais. Un quartier de belle ville autour d'un bar qui s'appelle vraiment Les Rigoles et qui était le troquet de référence de Brecht Evans.
Les Rigoles.
C'est vrai que Pérec, il y a du Pérec dedans dans sa tentative d'épuisement de la nuit parisienne et de ce quartier de Belleville. Moi, je trouve que c'est un livre qui parle de frontières entre justement le jour et la nuit, l'abolition des frontières sociales aussi que créent souvent l'alcool, la drogue, la nuit. Mais c'est aussi, je trouve qu'il y a, même l'enveloppe des personnages. Brecht Evans y travaille vraiment à l'aquarelle, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de ligne qui définit le personnage. C'est vraiment l'aquarelle et la forme de l'aquarelle qui est ce qui rend l'enveloppe extérieure des personnages très poreux, l'enveloppe intérieure des personnages très poreux à l'extérieur, et on voit des personnages qui perdent les limites de leur intériorité, qui vont suivre, qui sont ouverts au monde entier, qui vont suivre n'importe qui, écouter n'importe quoi, et l'usage de l'aquarelle là-dessus est très intéressante, parce que c'est vraiment le matériau idéal pour parce qu'il il est très très maîtrisé chez lui, mais on n'est jamais à l'abri d'un accident, on n'est jamais à l'abri d'une couleur qui va virer au contact d'une autre. Et là encore, il est question de frontières entre les couleurs. Moi, je trouve que c'est un livre qui est aussi très très fort visuellement, mais qui est aussi très sonore. C'est-à-dire que les pages dont vous parlez, cette alternance entre des dialogues fous, on est à la fois focalisé sur une conversation très serrée entre deux personnages, et puis on entend derrière une autre conversation plus large. Dans chacun des environnements qu'il décrit, j'entends tout ce qui se passe, en fait. J'entends le cliquetis des verres qui s'entrechoquent, la musique plus ou moins grande, j'entends la réverbération quand il y a une scène très longue dans les toilettes, j'entends le dialogue avec cette réverbération particulière. Donc, non, moi, je trouve que, en effet, on peut faire des liens avec le pavé d'Émile Ferris, mais là encore, je trouve que ça se tient. On n'est pas du tout perdu, comme vous le disiez, Antoine. C'est très, très agréable.
Alors, on n'est pas perdu, mais il faut quand même s'accrocher. Moi, j'ai quand même eu du mal. Je suis très admiratif, hein, comme vous, de la forme. Comme pour Émile Ferris, d'ailleurs, même si ça n'a rien à voir, il y a quand même quelqu'un qui maîtrise extrêmement, que le chaos n'est évidemment qu'apparent, ça c'est une quasi certitude. Moi j'aurais bien aimé le lire en plusieurs fois, prendre un petit bout de temps en temps, mais c'est quand même singulièrement compliqué
de lâcher et de revenir.
Donc prévoyez un peu de temps devant vous. Oui. Et juste une question pratique avant que cette émission se termine. Donc les planches originales vont être exposées à partir du 25 octobre à la Galerie Martel dans le 10e arrondissement de Paris. Je me demandais si vous saviez quel est le format des planches de Brecht Evans, parce que bon, là on a quoi, 21-29-7 là, ou quelque chose comme ça, sur cette édition, j'arrive pas à voir quel type de format est là, parce que moi je suis très curieux d'aller voir ça dans la galerie.
Avait été exposé aussi à la galerie Martel, mais je me souviens plus.
Parce que je me demande si c'est beaucoup plus grand, non, si c'est à peu près à l'échelle,
c'est au format. Alors qu'Émile Ferris, qui a aussi été exposé à la galerie Martel, les planches sont beaucoup plus grandes. Ouais. La densité qu'on ressent vient aussi de la réduction.
Non, parce qu'il y a aussi, et ça c'est très beau aussi un usage du vide, du blanc, du blanc de la page,
ouais, et, ouais,
qui est très fort.
Le livre va vers le vide.
Oui, de
ça
plus en plus.
Vraiment vers le vide et vers le blanc. Ça aussi, c'est assez.
Au bout de la nuit. Vous voulez dire un dernier mot, Antoine Guillaume?
Tout à l'heure, vous demandiez si le livre était rigolo. Et par rapport au Noceur, qui était son premier livre, ce qui est celui qu'il avait fait repérer, qui était beaucoup plus aussi, il me semble, dans la joie, là, il y a quand même quelque chose de très dépressif. Par moments,
ça commence vraiment par de la rigolade, mais on rigole pas comme ça.
C'est un livre complètement maniaco-dépressif.
Il a tous les symptômes de la maniaco-dépression et de la bipolarité. Il l'a d'ailleurs dit lui-même qu'après Panthère, il avait connu un épisode bipolaire.
C'est une autobiographie psychique
Oui, parce que quand ses amis ne veulent pas, il tape l'incruste. Et c'est quand même pathétique dès la troisième ou quatrième page, mais c'est mieux que le début d'une longue nuit. Les Rigoles de Brecht Evans, c'est publié en France chez Actes Sud BD. Et comme chaque soir, Sarah Dion nous a rejoint pour ce moment du jeu de la dispute, avec d'abord un rappel de la question que vous posiez hier au soir, Sarah.
Quel était le nom de la précédente série documentaire d'Alain Cavalier constituée de portraits?
Et la réponse était
24 portraits d'Alain Cavalier, tout simplement.
Ce soir, des places de cinéma à gagner pour Le procès contre Mandela et les autres, un film de Nicolas Champeau et Gilles Porte, dont on parlera d'ailleurs dans l'émission de demain, toujours en direct en public du Bel Air. Vous pourrez voir Antoine Guillot qui nous fait sa grande rentrée dans la dispute. Il nous avait manqué. Quelle est la question pour gagner ces places?
En quelle année s'est achevé le procès Rivonia, donc le procès de Nelson Mandela et de ses camarades de lutte?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission et bien sûr vous abonner à son podcast. Demain, comme annoncé, à 19h en direct et en public du Bel Air, une dispute cinéma. Antoine Guillot ne sera pas seul, non. Il aura la joie d'avoir avec lui et autour de lui Lily Bloom et Muriel Joudet. Nous parlerons ensemble du procès contre Mandela et les autres, de The House That Jack Built, de Lars von Trier, The First Man, de Damien Chazelle, et puis le coup de cœur d'Antoine Guillot sera pour les 6 portraits XL d'Alain Cavalier.